Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être brisé.
Aujourd'hui, il y a une clé que je voudrais vous laisser. C'est que notre regard sur Dieu doit changer, notre regard sur le monde doit changer, c'est vrai. Mais la clé au milieu de tout ça, c'est notre regard sur nous-mêmes doit changer. Comment tu peux être témoin en disant, tu sais, vraiment, je t'assure, il faut que tu suives le Seigneur. Les gars, ils disent, oui, j'ai l'impression que ça te conduit pas loin de la psychiatrie et de la déprime. Par contre, bien souvent, le diable nous ment et nous vivons comme des êtres diminués. Or, l'Évangile n'est pas venu pour nous diminuer, il est venu pour nous donner une vie en abondance. Et le titre de mon message, c'est ce que vous allez répéter avec conviction à vos voisins maintenant. Vivez au-dessus de vos moyens. Eh non, non, eh non, eh non. Vous me le refaites, le coup du Dieu des fourmis, là. Hein? Mon Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Je suis désolé, je vous ai fait une blague. Et en plus, elle n'était pas belge, mais je vous ai fait une blague. Je veux bien qu'on prie, mais je veux chaque fois qu'on apprenne à dire notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Nous servons El Elyon, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Jésus est venu du ciel, c'est vrai. Il est descendu très bas, mais il a été élevé au-dessus de tout. Et son ascension, c'est aussi la nôtre. Il y avait dans le ciel un chérubin qui savait combien Dieu aime nous élever. Et ce chérubin a dit, puisque Dieu aime nous élever, j'élèverai mon trône jusqu'au trône de Dieu. Le résultat, il a été précipité dans les régions inférieures. Dans le ciel, il y avait un fils qui savait que le Père aime nous élever. Et il a dit, je peux me laisser tomber, je sais toujours que le Père nous élève. Et il s'est laissé glisser dans l'humiliation de devenir un être humain. Ça, c'est déjà une humiliation, vous savez. Pour un être de gloire, un être divin, de prendre un corps humain dont les entrailles sont dégoûtantes, un corps humain limité, fatigué. Dieu s'est fait homme. Il est déjà descendu, prenant la forme d'un homme, mais descendu jusqu'à s'identifier au plus bas possible. Il savait que Dieu voulait, le voulait très haut, que Dieu voulait l'élever, mais il savait le chemin. Et il savait que le chemin, ce n'était pas de s'élever soi-même, mais de laisser Dieu l'élever. Alors, il n'a pas regardé comme une ambition suprême de dire, ben moi je vais aller jusqu'au trône de Dieu. Il a dit, je connais le cœur de mon Père. Mon Père a toujours un coup de cœur pour relever les gens qui partent en étant dans une situation défavorable. Alors Jésus s'est laissé glisser dans une situation défavorable, se livrant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Au moment où il était sur la croix, les anges démoniaques étaient autour de lui, se réjouissant. On l'a eu, le Fils de Dieu. On nous avait dit que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent, mais c'est cuit. Il est fichu. On l'a eu. Il n'y aura plus aucun espoir pour l'humanité. Le plan de Dieu avec l'humanité aura échoué. Et au moment où il a été crucifié sur la croix, comme on l'a chanté ce matin, il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. S'ils avaient su, les princes de ce monde de ténèbres, qu'en crucifiant le Seigneur de gloire, ils étaient en train de signer leur défaite, ils n'auraient jamais fait cela. Mais au moment où le sang de Jésus a coulé, ils ont été dépouillés. Ils ont perdu leur dignité, leurs vêtements et leurs armes. Ils se sont retrouvés nus face au Fils de Dieu, nus, crucifiés sur la croix. Eux étaient nus, sans force et sans haute puissance. Et Jésus-Christ lui-même a dépouillé le prince des ténèbres en descendant encore plus bas dans le séjour des morts, là où il est allé. Et dans cet endroit-là, il a prêché aux morts. Et il a vu les anciens, les saints de l'Ancien Testament qui étaient enfermés dans le séjour des morts. Et il a vu Esaïe et tous ceux qui avaient prophétisé sur lui en disant « Je le reconnais, je le reconnais ». Mais ils étaient enfermés là. Ils ne pouvaient pas avoir accès au trône de Dieu parce que simplement... le sang de Jésus n'avait pas encore coulé. Il n'avait pas ouvert les portes de la mort et du séjour des morts. Mais Jésus est allé voir Satan et il a dit maintenant, rends-moi la clé. Et Satan a dû donner la clé de la mort et du séjour des morts. Et Jésus dit, Apocalypse 1, 18, j'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts dans mes mains. C'est pourquoi je sais une chose, si je meurs aujourd'hui, alléluia, celui qui a la clé de l'autel, c'est Jésus, dans l'éternité. Celui qui tient la clé de la mort et du séjour des morts, c'est Jésus. Et je sais qui je vais rencontrer. Et arrivé là, Jésus a dit, maintenant les enfants, on va remonter. Alors les saints de l'Ancien Testament ont dit, d'accord, on y va, Seigneur. Il y avait quand même des touristes parmi eux. Il y avait des touristes, je peux vous le dire, parce qu'en passant dans la remontée du séjour des morts, là où Jésus a réduit à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, Hébreux 2, 14, afin qu'il réduise à néant la crainte de la mort chez tous ceux qui étaient captifs de cette crainte-là. Jésus ensuite est remonté avec autorité, et les saints de l'Ancien Testament et les saints en dehors de l'espace et du temps, c'est-à-dire moi j'étais avec, je ne sais pas toi, ce que tu crois de toi, moi j'étais avec. Et donc, les saints de l'Ancien Testament sont remontés du séjour des morts et Jésus a dit, on monte vers le Père. Et là ils ont dit, Seigneur, on peut aller manger un kebab. C'est pour ça que Matthieu nous dit qu'après la résurrection de Jésus, plusieurs des saints de l'Ancien Testament sont apparus dans la vieille ville de Jérusalem, mangeant un kebab ou des loukoums, je ne sais pas ce que... Franchement, la Bible ne nous dit pas ce qu'ils ont mangé. Mais elle nous dit qu'ils sont apparus dans la ville de Jérusalem après la résurrection de Jésus. Et Jésus a fait exactement comme Sylvain, tout à l'heure, au bout d'un moment, il a dit, rendez-vous à la bergerie, départ, cap sur le ciel, on monte. Et il est monté avec eux. Et il a traversé les cieux qui avaient été autrefois souillés par la rébellion diabolique. Et il les a lavés par son sang. Et le sang de Jésus-Christ, aujourd'hui, à chaque pas que nous faisons dans le ciel, crie « Grâce, rédemption, la faute est effacée, grâce, grâce, et grâce, et grâce, et grâce. » C'est pourquoi la Bible nous dit « Il a ouvert une route nouvelle et vivante. Approchons-nous du trône de Dieu avec assurance, parce que tout le chemin est parsemé, tout le chemin est un témoin de la grâce de Dieu accordée par le sacrifice de Jésus-Christ. » Et Jésus est arrivé devant le trône de Dieu après avoir précipité Satan des lieux très hauts jusque dans les lieux célestes. C'est pourquoi la Bible nous dit il a été précipité l'accusateur des frères, celui qui les accusait devant Dieu. Quand est-ce qu'il a été précipité? C'est un événement à venir? Non, c'est passé au moment où Christ s'est assis à la droite de la majesté divine. Le Christ qui a reçu pouvoir, à ce moment-là, il a été précipité l'accusateur des frères. C'est pourquoi Satan ne peut plus comparaître devant la face de Dieu aujourd'hui. Le ciel est lavé de la présence du diable et des démons. Si Satan pouvait aller devant la face de Dieu pour t'accuser, le ciel serait sale aujourd'hui. Mais le sang de Jésus a tout lavé et tout racheté. Et il a dit, Père, me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Et il y avait même Brigitte avec. Et le Seigneur n'a même pas hésité parce qu'il y avait Brigitte. Il a dit, mais venez. Et j'y étais aussi parce que je la reconnais. Et le Seigneur a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et Éphésiens 2, 6 nous dit, et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis en Christ aujourd'hui. L'ascension de Jésus n'est pas une ascension solitaire, mais ayant foi dans ce que la parole de Dieu nous dit, qui est déjà accomplie. Nous sommes assis en Jésus-Christ aujourd'hui dans les lieux célestes, au-dessus de tout nom qui peut être nommé, au-dessus de toute autorité, de toute domination. Nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Je vais faire une chose que je vous dis de pas faire. Moi, je vais demander un tout petit peu plus de gomme dans le micro. Ah, tant pis pour vos oreilles, mais sinon c'est ma voix qui trinque. Dans le retour. Ah, c'est dans le retour. Ah, ah, ah. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et ensuite, psaume 110, qui prophétise cela, le moment où Jésus s'est assis. Et là commence une autre phase du royaume de Dieu. Jésus assis à la droite de Dieu, Satan dépouillé de son autorité, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, maintenant domine au milieu de tes ennemis. La différence entre le royaume de Dieu aujourd'hui et le triomphalisme que certains ont, c'est que certains voudraient nous faire croire, domine, il n'y a plus d'ennemis. Ah non, domine au milieu de tes ennemis. La différence entre le royaume de Dieu et l'évangile misérable que certains voudraient nous faire croire, c'est que, ah oui, il y a des ennemis et il faut juste résister. Non, domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Dans ce monde, vous aurez des tribulations, des souffrances, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Et Jésus veut faire de nous des personnes élevées et des plus que vainqueurs. Le royaume de Dieu aujourd'hui, c'est domine au milieu de tes ennemis. Et de peu à peu, les ennemis du Seigneur deviendront son marchepied. Ça veut dire que chaque fois que les ennemis vont arriver et qu'ils tombent sous ses pieds, c'est une marche supplémentaire. Et lorsque la dernière marche sera établie, la mort sera vaincue, Jésus descendra du ciel. Alléluia. Le ciel doit le recevoir jusqu'au moment du rétablissement de toutes choses annoncées par les prophètes. En attendant, plus tu as d'ennemis, plus tu hâtes le retour du Seigneur. Alors vas-y, qu'ils y viennent. Hein? Parce qu'à chaque fois, les ennemis vont servir de ton marchepied. Maintenant, je vais te dire une chose. Tu vas mesurer le degré d'élévation que Dieu veut pour toi au nombre d'ennemis que tu as sur ton marchepied. Ouais. Au nombre d'adversités que tu as. Dieu fabrique des plus que vainqueurs au travers d'un marchepied d'adversité. C'est pourquoi domine au milieu de tes ennemis. Dieu veut nous élever. Dieu veut nous voir vivre au-dessus de nos moyens à nous. Oh Dieu veut nous voir vivre au-dessus de nos moyens à nous, au-dessus de nos capacités à nous. Quand Dieu bénit une personne, il l'élève au-delà de ce que cette personne aurait pu faire par elle-même. Lévitique 26, 13, « Je suis l'Éternel qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête. » Ah, ça, au moins vous aurez appris une chose de moi pendant ce temps-là. Peut-être vous la saviez déjà, mais au moins vous vous souviendrez. Ah, celui-ci, quand on le voit, faut pas prier le Dieu des fourmis. La tête haute. La tête haute, la dignité que Dieu nous donne. Vivez au-dessus de vos moyens. Vivez au-dessus de l'opinion, le regard que vous avez sur vous-même. Ne vivez pas par l'élévation de votre propre force, de vos mérites, etc. Acceptez non pas le chemin d'élévation que le chérubin appelé Lucifer a voulu. Je vais m'élever jusqu'au trône de Dieu. Acceptez la mesure que Dieu est capable de donner à ceux qui s'humilient. Mais ensuite, la conséquence de ton humilité, c'est la gloire. L'humilité précède la gloire. Nous avons tellement prêché l'humilité aujourd'hui dans notre monde chrétien que nous n'acceptons pas les conséquences de l'humilité. L'humilité précède la gloire. Dieu veut voir ses enfants marcher la tête haute, veut voir ses enfants capables de dominer au milieu de leurs ennemis et de leurs adversités. Et tant que tu ne sais pas qui tu es en Jésus-Christ, tant que tu ne changes pas ton regard sur toi-même, tu n'arrives pas à dominer au milieu de tes ennemis. Et chaque fois que l'ennemi t'intimide, au lieu d'en faire une marche supplémentaire de ton escabeau de plus que vainqueur, à chaque fois tu te laisses intimider. Quand j'étais petit, ma maman m'a raconté une histoire. Tout le monde sait ici que les histoires des mamans sont vraies. En tout cas, ma maman, c'est vrai. Elle m'a raconté l'histoire parce qu'il y avait un petit oiseau. J'étais chez ma grand-tante. En fait, c'est la tante de ma maman. Puis, il y avait un petit oiseau avec une couronne rouge. Et on l'appelait le roi Telé. Je dis, maman, pourquoi on l'appelle le roi Telé? Elle m'a dit, parce que il y a eu une course des oiseaux. Et riez pas, hein, c'est ma maman qui l'a dit. Et il y a une course des oiseaux, et puis on avait décidé que l'oiseau qui allait voler le plus haut serait appelé le roi des oiseaux. Alors le moineau a fait tous ses efforts, il a voulu s'élever. Le merle, le corbeau, un peu plus fort quand même que le moineau, les hirondelles, etc. L'aigle, lui, était sur un grand rocher, il attendait un grand vent, tranquillement. Et les oiseaux s'agitaient avec leur propre force. Et l'aigle, lui attendait un grand vent, et quand le grand vent est passé, il a déployé ses ailes, et porté par la force du vent,
Il était porté très haut, très haut, très haut, très haut.
Mais ce petit oiseau, vous savez, un roitelet, c'est tout petit comme ça, était tellement petit qu'il a dit, moi, j'ai aucune chance par moi-même. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est glissé dans les plumes de l'aigle. Et au moment où l'aigle allait être déclaré le roi des oiseaux, il a fait 70 cm avec ses toutes petites ailes. Et on a dit, oh, c'est lui le roi des oiseaux. Mais il était tout petit qu'on l'a appelé le roitelet. Et c'est une histoire vraie, c'est ma maman qui me l'a dit. Alors, il y a une leçon de foi ici. C'est qu'il y a des chrétiens merles et des chrétiens corbeaux et des chrétiens hirondelles et même des moineaux qui disent « Ah, tu cravaches avec tes petites ailes. » Jésus est l'aigle qui est monté le plus haut, Dieu le Fils, qui est descendu du ciel, qui vient d'en haut. Mais la Bible nous dit « Celui qui est en l'aigle, celui qui est en Christ est une nouvelle création. » Nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités en Christ. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. L'élévation de Jésus est notre élévation aujourd'hui. Et ton pas de foi, c'est juste tes 70 petits centimètres. 70, pour que d'autres comprennent. 70 centimètres. Juste comme quelques petits coups d'aile dans la foi de dire, oui Seigneur, je crois tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit. Toi seul, tu méritais de l'être, mais merci de m'avoir accepté au milieu de tes plumes et d'accepter que je monte un tout petit peu plus. Merci pour la dignité que toi tu me donnes. Et ça, c'est quelque chose de puissant. Hier, j'ai partagé deux, trois petites histoires aux jeunes. Je ne sais pas si je vais vous partager toutes, mais au moins je vais vous partager, bien sûr, cette histoire-là, on la connaît tous. Tout le monde connaît Zachée dans la Bible. Le problème de Zachée, c'est qu'il voulait s'élever, parce que chaque être humain voudrait réussir sa vie. On veut réussir notre vie. Le problème, c'est que parfois, on veut s'élever parce qu'on souffre de complexes. Mais tu as toujours le choix. Soit tu t'élèves par tes forces, soit tu laisses quelqu'un d'autre t'élever. Et Zachée, lui, voulait s'élever parce qu'il était tellement petit de taille. Noël Colombier qui chantait « Avoir les fesses près du plancher, ça l'avait toujours complexé. Quand on voulait lui faire des pis, on lui disait « Oui, mon petit ». Alors il s'était imposé à la force de ses poignets. Dans son métier de percepteur, il était trésorier-payeur. Donc ce petit Zachée, avoir les fesses près du plancher, ça l'avait toujours complexé. Lui aussi, il imposait les mains, les fesses, non pas aux chaises, mais au plancher, le pauvre. Sa maman passait jamais la serpillère, Zachée passait par là. Alors, vous savez, c'était vraiment pénible pour lui, les petits gamins se moquaient de lui. À l'école, imaginez, c'était à la ville de Jéricho, le rabbin de Jéricho qui entrait dans la classe, le maître d'école dit, « Zachée, on t'a pas appris quand une telle personnalité entre, il faut se lever. » « Mais monsieur, je suis déjà debout. » Puis tous les autres gamins qui étaient aussi méchants que vous, qui riaient aussi. Et du coup, le petit Zachée était complexé, il avait dit, « Si un jour j'arrive à être grand, tous ces gens qui ont ri de moi, ils vont en baver. » Et il avait voulu s'élever au-dessus d'eux, par ses propres forces, jusqu'à un statut où il allait être grand par lui-même. Il voulait être grand par ses moyens à lui. Ses moyens à lui. C'est pourquoi je vous dis, vivez au-dessus de vos moyens. Et ce Zachée qui était là, si grand, vous avez décidé de s'élever dans la hiérarchie pour que les gens le respectent. Il voulait être grand, grand, pour ceux qui ont vu Bruce Tout-Puissant. Et ça me rappelait que je disais hier soir aux jeunes, ça me rappelle Napoléon qui disait « Ce que je cherche avant tout, c'est la grandeur. Ce qui est grand est toujours beau. » Il mesurait 1m59. J'ai vu sa baignoire à Rambouillet, au château de Rambouillet, demander si c'est pas un bac pour les enfants. Tout petit. Mais ce qui est grand est beau, disait-il. Alors ce Zachée, la même chose, quand il est devenu adulte, il est devenu un inspecteur cruel parce qu'il voulait absolument s'élever et que les gens le respectent. L'élévation par soi-même nous rend méchants, nous rend cruels. Si tu ne vis pas au-dessus de tes moyens, tu vas vivre par tes moyens. Et vivre par ses propres moyens, c'est se rendre à la merci de la cruauté, de la méchanceté qui est en nous. Si tu ne laisses pas Dieu t'élever, tu vas vivre par les moyens de ton élévation personnelle et ce ne sera pas bon. Vivez au-dessus de vos moyens. Dieu veut vous élever largement au-delà de ce que vous pouvez faire par vous-même. Donc ce Zachée est devenu inspecteur d'impôts, collabo de l'envahisseur romain, et profitant de sa position pour arnaquer les gens, il voulait les abaisser, et comme ça s'élever lui-même. Bien sûr, le peuple n'aimait pas ce collabo qui s'enrichissait aux dépens des pauvres gens, parce que lui, il faisait toujours payer une taxe en plus, c'était 30 euros pour les Romains, mais ça coûtait toujours 60 euros TTZ, toute taxe pour Zaché. Et toutes ces factures étaient signées d'un Z, qui veut dire Zaché. Hein? Ça m'a fait penser à une histoire, quand je racontais cela aux jeunes hier soir, l'histoire d'un petit garçon, que je vais raconter plus rapidement qu'hier soir, Dolphy, qui jouait dans un jardin. Et la littérature française raconte cette histoire-là, ce Dolphy qui jouait dans un jardin, sa maman Clara l'amène, et puis Zola, il arrive avec un fusil tout neuf, et tous les enfants le regardent, parce que tous les enfants dans ce pays-là, c'était en Autriche, étaient beaux, étaient blonds, grands, forts, et lui était brun, avec une petite mèche en virgule sur le front, et puis il arrive avec son fusil, et il était tellement blafard, vous savez, que les autres enfants avaient fini par l'appeler la laitue, parce qu'il était blanc-vert, vous voyez, tellement, il était maigrichon, pas très beau, et puis il n'attirait pas la sympathie. Ce jour-là, quand il arrive avec son fusil tout neuf, les autres enfants ont dit, ah, mais la laitue vient, mais il veut pas jouer avec nous, il vient juste pour nous narguer et tout. Puis, au bout d'un moment, la maman dit, mais va jouer avec eux, pourquoi tu veux pas? Non, je veux pas, parce qu'ils se moquent de moi. Bon, tu dis ça parce qu'ils t'appellent laitue, mais c'est pas un vilain nom. Et la maman qui l'avait, le pauvre, elle l'aidait pas à avoir une haute opinion de lui-même. Et puis, ce petit Dolphy, au bout d'un moment, les autres sont venus le voir pour dire, tu sais, t'as vraiment un beau fusil, avec ça, tu pourrais être capitaine dans une de nos armées. Alors, ils ont décidé deux camps, lui allait aller avec le capitaine Walter et l'autre camp. Juste à ce moment-là, ça faisait 10 minutes qu'il était avec eux, il l'avait toujours pas appelé la laitue, il commençait à avoir confiance, commençait à se sentir grand. Et puis, de l'autre côté de la rivière, derrière le parc, il y a une armée qui passait, la fanfare qui jouait. Et là, il sentait au-dedans de lui des relents de fierté qui montaient, il sentait devenir grand. Et là, il pousse un cri, à l'attaque! Et puis, il commence à courir. Et il n'a pas eu le temps de se retourner à 5 mètres. Il a entendu des rires narquois derrière lui à 5 mètres. Ils avaient tendu une ficelle, il est tombé. Et à ce moment-là, tous les gamins lui ont sauté dessus, l'ont piétiné, donné des coups de pied, frappé, cassé son fusil, etc. Il s'est relevé. Au bout de quelques minutes, il avait un objet de métallique tout plié. Et puis il était déchiré, son pantalon, ses vêtements, etc. Il revient vers sa maman en pleurs. Et puis quand il va vers sa maman, elle commence à l'engueuler. Puis il y a une femme qui passe et qui regarde. « Oh, pauvre petit garçon !» Alors lui, et c'est la dernière fois de sa vie, il avait un petit regard, vous savez, qui disait, est-ce que vraiment vous me plaignez? Est-ce que vraiment vous m'accordez de la valeur? Et puis à ce moment-là, sa mère lui dit, dépêche-toi Adolphe, on rentre! Elle l'a tiré. Alors il s'est mis à brailler à tue-tête, il avait même un rictus sur son visage. Et là, l'autre dame élégante a dit, ah, ces enfants, toujours en train de brailler. Allez, au revoir, Madame Hitler. Voyez comment on fabrique des gens cruels quand les gens ne sont pas valorisés. Dieu nous a accordé une valeur et le péché nous dévalorise. Le péché nous dévalorise, c'est pourquoi la Bible nous dit, vous avez été rachetés à grand prix. Agorazo en grec, rachetés sur le marché des esclaves à grand prix. Ex agorazo, sorti du marché des esclaves. Lutro est non seulement sorti du marché des esclaves, mais vos liens ont été brisés. Ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau immolé avant la fondation du monde. C'est pourquoi quand tu commences à regarder ce que tu vaux, tu commences à dire, mais en fait, mais quelle est ma valeur? Je vaux le prix du sang des fils de Dieu. Je vaux le prix que Dieu a estimé. Vous savez, il y a des experts et il y a des gens qui n'y connaissent rien. J'étais quelques années avec un de mes amis dans l'église qui vend des tapis. Ça ne s'appelle pas Kader, c'est un vrai marchand de tapis, des tapis de luxe qu'il vend, etc. On arrive dans une ferme chrétienne, là, pour jeûner et prier ensemble quelques jours, et puis il y a un tapis, mais un truc dégueulasse. Moi, je n'osais même pas le prendre pour le mettre à la poubelle. Je dis, oh purée, ce truc, c'est dégueulasse. Puis, j'allais jeter. Il me dit, Philippe, touche pas. Ça vaut 10 000 francs. C'est il y a quelques années, à l'époque des francs. Et puis, des francs, monnaie. Hein. Je ne suis pas si vieux que ça. Donc, il me dit, tu sais, ça vaut 10 000 francs. J'ai dit, ça, 10 000 francs. Mais Greg, moi, je ne t'en donne pas 50 francs. Il dit, mais ça, c'est parce que tu n'y connais rien. Moi, je connais la valeur de cela. Et tu sais, toi comme moi, on était sur le marché des esclaves. Moi, par exemple, vendu sur le marché des esclaves, vendu au péché. Puis chaque fois qu'un truc me prenait, quand je suis parti un peu dans la drogue, quand on me ramenait, mon prix d'Argus diminue à chaque fois. Et peu à peu, à force d'entendre que je ne vaux rien, puis quand je pars dans ma philosophie, mon intelligence enténébrée, je suis ramené ici, puis chaque fois je suis endommagé. Quand je pars dans mes expériences sentimentales, où mon cœur est en lambeaux, et où je suis ramené, je finis par me dire, mais finalement c'est vrai que je ne vaux rien. Puis le diable parle, et il dit, non vraiment, tu ne vaux rien. Et toi, tu dis avec conviction, amen. Et la foi vient de ce qu'on entend. Que tu entends de la parole de Dieu ou de la parole du diable, si tu as foi sur ce que tu entends, tu rajoutes foi, ça veut dire que tu encaisses. Et tu deviens ce que tu crois et ce que tu dis que tu es. Alors, je commençais à croire que je ne valais rien. Mais c'est étonnant, parce qu'un jour, Jésus arrive et lui dit, je paye le prix de ma vie pour toi. Tu regardes, tu dis, pour ça? Pour un tapis comme ça, tu mets 10 000 francs? Moi, je ne te donnerai pas 50 francs. Pour une vie comme moi, paix, tu donnes Jésus-Christ? Non, mais il y a erreur. Philippe, c'est parce que tu n'y connais rien. Moi, je suis expert en valeur des vies humaines. Je dis, oh Seigneur, c'est vrai. Alors, je vais accepter. Au début, ça me fait drôle, vous savez, d'accepter ce que Dieu dit que je suis. Au départ, ça nous fait drôle d'accepter cela. Mais c'est tellement merveilleux d'accepter la valeur que Dieu lui-même nous donne. La valeur que Dieu lui-même nous donne. C'est pourquoi la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la suite dit quoi ? Désormais, nous ne regardons plus personne selon la chair. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Tant que tu regardes toi-même selon la chair, tant que tu te regardes selon ce que tu croyais être avant, tu te connais selon la chair. Tu dis, 50 francs. Mais Dieu dit pas ça. Désormais, nous ne regardons plus personne selon la chair. Nous n'évaluons plus personne selon la chair. Chaque croyant qui a reçu Christ vaut le prix de la vie de Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pourquoi nous pouvons avoir la tête haute, pas à cause de nous, mais à cause du prix que Dieu nous a estimé. Maintenant, tu as un choix. Soit de dire, oh, mais je l'aime bien, mon petit rejet. Parce que tout le monde au moins s'occupe de moi. Ou soit, tu as le choix de la foi et de dire, si je vaux le prix du sang du Fils de Dieu, le rejet n'a plus aucune attache sur moi. Je vaux beaucoup. Désormais, je ne me regarde plus moi-même selon la chair. Je me regarde comme nouvelle créature, participant de la nature divine. Philippe, tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle création. Tu es justice de Dieu. Christ a été fait péché pour que tu deviennes justice de Dieu. Je peux vous assurer, plusieurs fois par semaine, quand je me lève le matin et que je me vois à la glace, j'en ai pas l'air, hein, mais je me dis, bonjour justice de Dieu. Et chaque fois avec la tête mal réveillée que j'ai, ça me fait sourire. C'est mon premier sourire de la journée, mais je me parle selon qui je suis. Je suis justice de Dieu. Que ça vous plaise ou non, la Bible le dit et je le crois. Tu es justice de Dieu. Que ça te plaise ou non, c'est ce que tu es. Mais écoute bien ceci. Romains 6, 6 et 11 nous dit, sachant que nous avons été crucifiés avec lui, sachant que nous sommes en Christ, la théologie ici est fondamentale. Je ne parle pas d'une théologie qui coupe les cheveux en quatre pour savoir si Dieu est un coiffeur. Je parle de quelque chose de réellement vivant qui transforme ta compréhension, ton regard des choses. Sachant que tu as été crucifié avec Christ, que tu es en Christ aujourd'hui, Romains 6, 6, regardez-vous vous-même, Romains 6, 11, comme mort au péché et vivant en Dieu. Je suis en Christ aujourd'hui, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ce n'est pas une prétention. C'est parce que j'étais tellement sûr que je n'avais pas ma valeur, que j'ai abandonné ma valeur. J'ai même pas fait la petite course des oiseaux. Je la fais plus. C'est fini. J'ai renoncé à ma propre valeur. J'ai revêtu le Christ et je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je vaux le prix du sang du Fils de Dieu. Et c'est quelque chose qui change. Cette théologie change tout. Me concernant comme te concernant, Dieu nous voit comme en Jésus-Christ. La Bible nous dit, or, la loi possédait l'ombre des choses à venir, mais la réalité de qui tu es, c'est en Christ. Qui tu es? Si tu me dis, ah ben moi je suis Suisse, mais ça c'est ta nationalité, c'est pas ton identité. Ah mais je suis prof, ça c'est ta profession, c'est pas ton identité. Ah mais moi je suis sanguin, mais ça c'est ton tempérament, c'est pas ton identité. Ton identité c'est qui tu es. Je suis en celui qui est. Mon identité est en lui. Et tout ce que Jésus est, il me l'a accordé. Je suis héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. Tout le pouvoir que Jésus a eu, il me l'a donné, il te l'a donné. C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris. Comme cet homme était guéri de la fracture l'autre jour, je ne sais pas où il est. Mais hier soir, il a encore témoigné en sautant là devant nous. Il dansait hier soir pendant le concert de Nicolas Ternicien, alors qu'avant-hier il avait une fracture au pied, il pouvait pas marcher. Béni soit Dieu. Vous croyez que c'est parce que je suis un guérisseur? Non! Je vole pas avec mes ailes. Je me suis mis dans le grand aigle. Jésus, je suis en Christ aujourd'hui. Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Comment vous voyez-vous vous-même? Vous savez, la sanctification, c'est pas essayer de s'attacher à un poteau de légalisme. Comme Ulysse s'attachait au mât du bateau et il entendait les sirènes. Il dit, oh, je vais résister. Oh, il faut que je résiste. Et puis on est là en train, dans notre sainteté légaliste, évangélique ou chrétienne, en train de dire, oh non, je vais pas me livrer au péché. Il faut que je tienne bon. Il aurait fallu que je tienne bon. Bientôt, je tiendrai bon. Quand tu sais qui tu es, ça change tout. Le roi Louis XVII, qu'on a appelé, le roi Louis XVII, celui dont on a retrouvé le cœur apparemment il n'y a pas longtemps, en tout cas identifié comme tel. Après la Révolution, il était élevé par des révolutionnaires et régulièrement, il lui disait « Dis ces obscénités ». On lui apprenait les gros mots, les obscénités et à agir de façon vulgaire. Et cet enfant, chaque fois, répondait « Je ne peux pas le dire et je ne peux pas le faire. Je suis né pour être roi. » Ça, c'est la sanctification. Quand tu sais qui tu es, tu agis en fonction de cela. Je suis né pour être roi. Je ne touche pas à ces caca-là. Tu peux te balader avec des cigarettes devant moi. Je suis né pour être roi. Je respire l'air du ciel. C'est tellement mieux. Tu peux venir avec ta piquette. Je préfère l'ivresse du vin doux de Dieu. Parce que c'est tellement, j'ai connu le meilleur. Si quelqu'un est en Christ, tout son regard sur lui-même va changer. Vous vivrez à la mesure de votre foi. Et je vais terminer par mon histoire préférée, et puis je vais prier avec vous après. Mon histoire préférée, j'en avais deux, j'ai oublié une. Bon, je vais commencer au moins par ma préférée, s'il y a l'autre, je la dirai aussi. Une petite fille, dans sa famille, regardait ses frères et sœurs jouer dehors, une histoire vraie. Elle s'appelait Vilma. Vous trouvez ça dans tout ce chapitre-là, dans le livre « Quelle marque votre christianisme ?» Vilma était handicapée. Alors, elle avait des prothèses et des orthèses, des appareils orthopédiques qui l'empêchaient de marcher. Puis, elle voyait ses petits frères et ses grandes sœurs, etc., qui jouaient dehors, puis elle dit « Maman !» Elle avait 9 ans. Est-ce qu'un jour, moi, je pourrais marcher et courir comme mes frères et sœurs? Ma chérie, si tu crois, Dieu peut le faire arriver. C'est ce que tu crois de Dieu qui va arriver dans ta vie. Vilma a compris qu'elle pouvait vivre au-dessus de ses moyens. Qu'elle pouvait vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Il vivra, sa qualité de vie, sa mesure de vie, son niveau de vie sera selon ce qu'il croit. Alors Vilma a commencé à croire. Et de temps en temps, dans sa chambre, elle disait à ses frères et sœurs, vous m'aidez? Elle enlevait tout, puis essayer de marcher. Elle tombait, elle se relevait, puis elle essayait encore. Et puis le jour est arrivé, pour aller vite sur l'histoire, à l'âge de 12 ans, elle était chez le médecin, et elle dit, « Papa, maman, j'ai un cadeau pour vous, pour mon anniversaire. » Elle dit, « Mais qu'est-ce que tu sais, Vilma ?» Et regardez, et devant le médecin, elle enlève tous ses appareils orthopédiques, et elle commence. Et papa et maman qui voient ça, commencent à pleurer, et à dire, « Mais comment tu as fait ?»« Maman, tu m'avais dit, ma chérie, si tu crois, Dieu peut le faire arriver. » Maman, tu sais, j'ai cru. Je disais à Dieu, je crois que tu peux le faire arriver. Et avec mes frères et sœurs, j'ai commencé à les enlever. Et aujourd'hui, je suis content de faire ce cadeau. Le médecin a dit, c'est un miracle. Vilma est repartie de là, mais Vilma voulait vivre au-dessus de ses moyens. Elle a dit, maman, je veux jouer au basket comme ma sœur. Vous seriez arrêté un petit miracle, hein? Vivez au-dessus de vos moyens. Elle a dit, maman, je veux aller jouer au basket. Alors, le papa a amené ses deux filles à la sélection de la ville pour le club de basket. Parce que le basket, quand même, c'est un sport, c'est pas une œuvre de charité, donc il y a une sélection, on prend les meilleurs. Et bien sûr, Vilma était partenue. Papa a dit, pour le basket, mes filles, ça marche par paire. Vous voulez une, vous prenez deux, sinon ça marche pas. Et là-dessus, c'était non négociable. Du coup, l'autre a dit à Vilma, bon ben viens aussi. Il a filé un vieux maillot de 3 ou 4 saisons passées qui restait là, il n'y a plus de numéro dessus, il était délavé, prends ça. Ça aide beaucoup pour la valeur de soi. Mais au lieu d'aller dire, oui, je suis très blessé, François, pose-moi les mains, j'ai besoin de guérison. Elle a dit, je vais vivre au-dessus de mes moyens. Elle a dit, souviens-toi, maman a dit, ma chérie, si tu crois, Dieu peut le faire arriver. Alors avec son petit maillot, qui était en train de déclarer, t'es en bas, elle a dit, mais je vais vivre par la foi en celui qui nous élève. Elle a dit à l'entraîneur, vous savez, si vous acceptez de m'entraîner 10 minutes de plus que les autres, bientôt je deviendrai une des meilleures de l'équipe. Alors il a souri, puis après, comme elle insistait, puis elle est venue avec une copine, elle a dit, ma copine est d'accord de m'entraîner. Si vous regardez seulement les exercices, vous lui dites ce qu'elle doit me faire faire, c'est tout. 10 minutes de plus, bientôt vous n'aurez plus besoin de rester là, elle va m'entraîner une fois que vous lui aurez appris. Il a accepté. Du coup, elle est restée 10 minutes de plus. Quelques mois, elle était devenue titulaire dans l'équipe, une des meilleures de l'équipe. Elle commençait à remporter des tournois ici, dans son nouveau pays, aux États-Unis. Et quelques temps après, alors qu'elle était dans un grand tournoi, un arbitre, qui était un entraîneur d'athlétisme, a remarqué cette fille qui courait sur le terrain de basket et a dit « Mais cette fille, elle est faite pour l'athlétisme. » Et du coup, il a voulu la recruter pour les championnats d'athlétisme. Alors elle est partie, elle a commencé les courses. En quelques temps, elle a commencé à gagner les courses dans sa ville. Puis on l'a mise championnat de son état. Peu de temps après, à l'âge de 16 ans, elle gagnait les courses dans son état. En 1956, Vilma Rudolph est allée aux Jeux Olympiques d'Australie, où elle a gagné une médaille de bronze dans une course de 200 mètres. Une course de 400 mètres en relais. Si vous regardez les registres des Jeux Olympiques, vous verrez Vilma Rudolph, médaille de bronze, 1956, Jeux Olympiques d'Australie. C'est cette petite Vilma qui, dans la chambre, disait « Maman, tu crois qu'un jour, moi, je pourrais marcher, courir comme les autres ?»« Ma chérie, si tu crois Dieu, il peut le faire arriver. Parce que tu vivras non plus selon tes moyens, mais selon les moyens que lui te donne. Dieu te donne toujours les moyens quand tu crois. » C'est pas magnifique. Mais peut-être vous vous seriez arrêté là. Mais pas Vilma, parce que c'est qu'une médaille de bronze. Donc Vilma a dit, souviens-toi, maman a dit, ma chérie, si tu crois, Dieu peut le faire arriver. Ainsi, elle est allée aux Jeux Olympiques de Rome en 1960, où elle a remporté 4 médailles d'or, et où elle a battu 3 records du monde, de 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres relais. Vilma Rudolph, 4 fois médaille d'or et 3 fois recordman ou recordwoman du monde. Cette petite fille qui avait accepté, au lieu de rester enfermée sur elle-même à se plaindre, « Pourquoi Dieu m'a créé comme ça ? Pourquoi l'entraîneur m'a donné un maillot sans numéro ?» Au lieu de faire ça, ma chérie, si tu crois... Et le père te parle, le père est en train de parler à plusieurs femmes, plusieurs filles ici. Ma chérie, si tu crois, Dieu peut le faire arriver dans ta vie. Ne reste plus dans la poussière, parce que la Bible nous dit de la poussière, il relève le misérable et il le fait asseoir avec les grands sur leur trône. Nous servons le Dieu de l'ascension, le Dieu de l'élévation, le Dieu qui se plaît à élever ceux qui sont réellement humbles, ceux qui acceptent de descendre de leur piédestal et ceux qui viennent devant lui pour dire « Je ne vais pas chercher à m'élever par moi-même, mais je vais faire une chose, je croirai en qui tu es et je vais devenir un plus que vainqueur en toi. Je vais accepter de changer l'image de moi-même et je vais accepter de ne plus me plaindre quand les adversités arrivent. » Ma dernière histoire, je vous promets, sera plus courte et je prie pour vous. Une histoire bien connue qui pourrait aider plusieurs ici à être plus que vainqueurs, et je fais mes deux appels là. Quand un jour un vieux fermier avait un âne, plusieurs peut-être connaissent l'histoire ici, et cet âne était tombé dans le puits. Alors ce vieux fermier essayait de le sortir, comme il n'y arrivait pas, il a décidé d'enterrer cet âne. L'âne qui braillait jour et nuit, il ne peut plus dormir, il ne supporte pas, commence à prendre la pelle et envoyer la terre, envoyer la terre. L'âne était furieux de recevoir la terre. Alors il braillait, puis il se secouait. Et puis la terre continuait à lui arriver dessus et il se secouait. Et puis peu à peu, la terre tombait à ses pieds et commençait à l'élever de plus en plus. Et la terre continuait à tomber sur lui et lui se secouait. Et puis la terre s'élevait. Et le fermier croyait avoir enterré l'âne jusqu'à ce qu'il entende que l'âne était en train de brailler juste à côté de lui. Et il réalise que du coup, s'il met encore plus de terre, l'âne qui se secoue est en train de sortir. Et puis il voit le cou de l'âne arriver et il a sorti son âne en pensant l'enterrer. Pourquoi ? Chaque pelleté qui devait l'enterrer est devenue son marchepied. Je ferai de tes ennemis ton marchepied, nous dit le Seigneur. C'est pourquoi chaque fois que tu as une adversité, un pépin, une épreuve, secoue-toi. Dis pas simplement évangile selon Thomas, allons mourir avec lui. Mais secoue-toi, fais comme cette âne qui dit, non ça je l'accepte pas, non ça je l'accepte pas, non Satan tu n'auras pas le dessus, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je sais une chose, Dieu est fidèle, il m'aime d'un amour éternel, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé. Qu'est-ce que c'est un plus que vainqueur? C'est un vainqueur qui part dans une situation défavorable. Oui, ça c'est plus que vainqueur. Vainqueur c'est joli. On a eu Eddy Merckx, un vainqueur. On a eu, c'est pour les Belges. On a eu, je sais pas, vous avez eu un Suisse cycliste. Je suis désolé, je le connais pas. Pardon pour mon manque de culture. Il a gagné le Tour de France, tu vois, mon manque de culture ici. Pourtant, je croyais savoir. Mais actuellement, donc on avait eu Anquetil, on a eu Bernard Hinault en France. Mais à l'heure actuelle, il y en a un qui n'est pas simplement un vainqueur. C'est un plus que vainqueur. Lance Armstrong, pourquoi? Il s'est levé d'un lit de cancéreux pour reprendre le vélo et gagner 5 fois le Tour de France. Je ne sais pas s'il va gagner celui cette année, mais quand quelqu'un part dans une situation défavorable et qu'il devient un vainqueur, il est un plus que vainqueur. C'est pourquoi si tu trouves que c'est difficile dans ta vie, écoute bien, il se pourrait que Dieu soit en train de fabriquer un plus que vainqueur. Il se pourrait qu'il y ait une petite fabrique de plus que vainqueur dans cette assemblée ce matin. Et que le Seigneur aime les vainqueurs, mais moi je crois qu'il a un petit coup de cœur pour les plus. Il a vu Joseph qui arrivait. Moi je vais être un vainqueur. Le Seigneur dit, moi je préfère les plus que vainqueurs, Joseph. Tout bon. Et ensuite il l'a élevé pour qu'il devienne un vainqueur dans une situation défavorable. On a tous des coups de cœur pour les petits qui remportent la victoire. Et le Seigneur est comme ça. C'est pour ça quand tu vois l'adversité du Seigneur, tu es en train de fabriquer avec moi un plus que vainqueur. Alors moi aussi je me secoue et j'accepte ces choses qui arrivent non pas pour m'y soumettre et perdre, mais tu fais de moi un vainqueur dans une situation défavorable. Jamais je baisserai les yeux devant le diable. Je suis élevé comme Jésus-Christ a été élevé. Et c'est pourquoi régulièrement j'écris sous mes chaussures, mais comme j'ai mis ces tennis, juste hier c'était pas écrit. Alors je vous encourage à prendre un stylo et vous pouvez écrire Romains 16:20 sous une chaussure. Amen. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Luc 10:19 sous l'autre. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. et vous êtes en train de déclarer que vous êtes plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je veux prier avec vous, mon juste vivra par la foi. Ce que tu crois que le Seigneur fait de toi, ce que le Seigneur est en train de changer dans ton regard sur toi-même, va te rendre capable d'être un témoin épanoui. Je vous ai dit une bêtise? Luc 10, 19, Romains 16, 20. Vous en voulez d'autres? Josué 1, 3. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Comme vous voulez, il y a un peu de place sous vos chaussures. Puis changez régulièrement, parce que quand vous marchez, ça s'efface. Sauf vous, mesdames, quand vous avez des talons, écrivez à l'endroit qui n'est pas atteint. Gloire à Dieu. Je veux prier avec vous, et c'est l'heure de finir. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que tu as fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Qu'est-ce qui aurait pu nous arriver de plus grand, Seigneur, que le prix que tu as accepté de nous donner? Et Seigneur, c'est pourquoi nous acceptons nous aussi de descendre de notre piédestal. Nous ne voulons pas nous élever par nous-mêmes comme ce chérubin, ou comme Zachée, ou comme tant d'autres qui ont essayé de s'élever par eux-mêmes. Nous acceptons ton élévation sur nos vies, et nous te bénissons. Nous te bénissons, notre Dieu. Si jusqu'à ce jour, c'était une lutte pour vous, que vous vous sentiez être sous votre piédestal, et que vous voulez juste quitter votre piédestal pour venir sous la main du Seigneur, vous quittez votre élévation de vous-même, votre endurcissement, je parle particulièrement, je pourrais décrire, il y a des maris ici, vous êtes comme cela avec votre épouse, un peu dur, vous êtes sur votre petit piédestal, tu sais, vu du ciel, ton piédestal, c'est vraiment petit, hein. C'est pourquoi descends et viens dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Descends de ton petit piédestal. Descends de ta petite dignité, ton petit orgueil masculin. Descends de ton amour propre. Arrête avec ce complexe qui fait que tu te mets en colère tout le temps. Descends de cela. Descends, humilie-toi devant ton Dieu. Humilie-toi même devant ton épouse. C'est Dieu qui va t'élever. Et tous ceux qui ce matin ici, vous n'êtes jamais descendus de votre piédestal. Ou vous vous sentez sur un piédestal, votre réputation, votre honneur, votre position. Je vous invite maintenant même à vous approcher ici devant à genoux pour dire simplement « Je descends de mon piédestal et j'accepterai l'image, l'élévation que Dieu lui-même va me donner. »